Marel Béchir a été mis en prison, des protestataires ont été libérés, des figures controversées ont été limogées. Pourtant, Souleymane Baldo, les manifestations persistent. Pourquoi ?
La demande principale des manifestants est vraiment le démantèlement d'un système de gouvernance qui a sévi sur le pays pendant une trentaine d'années. C'est un système de corruption structurelle et protégé par l'État, un système de répression massive des droits fondamentaux des Soudanais et un système qui a mené la guerre contre les peuples soudanais au Darfour, au Sud-Kordofan et dans le Nil Bleu. À des prix de sacrifices humains immesurables, il y a encore 2,5 millions de déplacés au Darfour qui sont dans les camps de déplacement. Ce système-là que les jeunes veulent démanteler et n'est pas des gestes par-ci, par-là pour essayer de satisfaire les manifestants.
Mais Souleymane Baldo, le conseil militaire a promis qu'un gouvernement civil serait établi. Cette promesse ne suffit pas ?
Ça ne suffit pas parce qu'il s'agit de répartition de pouvoir entre les militaires et ce gouvernement civil dont ils sont prêts à donner une concession. Les demandes de l'opposition de Front pour le changement et la liberté qui organise ces protestations, c'est que le conseil militaire soit conjoint militaire et civil et qu'il ait un pouvoir souverain de chef d'État, pas un pouvoir exécutif. Et par contre, le pouvoir exécutif par mandat soit entièrement dans la main d'un cabinet civil qui est désigné par l'opposition de cette déclaration pour le changement et la liberté qui a organisé toutes ces manifestations massives depuis le mois de décembre.
Gérard Prunier, qu'en dites-vous ? Les manifestants ont-ils raison de se méfier ?
Mais il y a le point de l'histoire. Ce régime n'a cessé de mentir depuis le jour où il a pris le pouvoir, en 1989. À l'époque, l'homme qui était derrière cette prise de pouvoir, Hassan al-Tourabi, s'était même fait mettre en prison, de manière évidemment totalement arrangée à l'avance, pour ne pas sembler être à la tête de ce mouvement. Donc tout ce que le régime a fait depuis 30 ans est fondé sur le mensonge. Donc pourquoi les manifestants qui ont eu beaucoup de discipline et de courage devraient aujourd'hui croire des gens qui sont des menteurs en série?
Après le départ du président Béchir, les manifestants exigent donc la dissolution du conseil militaire qui lui a succédé et l'instauration d'un pouvoir civil. Gérard Prunier, ces revendications vous semblent-elles réalistes?
Oui, bien sûr. Ça serait le retour, parce que ce régime est arrivé au pouvoir par un coup d'État le 30 juin 1989. Bon, il y avait un régime élu, il y avait eu des élections démocratiques, et depuis 30 ans, il a reposé sur un état de fait, sans aucune espèce de légitimité autre que sa propre parole. Alors, sa parole a plus ou moins fonctionné pendant un certain temps, et au fur et à mesure que, par une suite d'échecs économiques, politiques, sociaux, diplomatiques, le régime s'est délabré littéralement, on en est arrivé au point où les gens ont dit « Écoutez, vous êtes trop incapable de gouverner, partez et revenez à la situation où on en était en 1989. » Et puis, les élections, on verra par la suite, parce que le paysage politique aujourd'hui est déserté. Les formations politiques traditionnelles qui existaient se sont desséchées par manque d'usage, on pourrait dire, et n'ont pas été capables de se renouveler. Il faut dire qu'elles étaient soumises sans arrêt à un tir de barrage visant à les réprimer, mais on est un peu devant un désert politique.
Souleymane Baldo, est-ce que ce désert politique pourrait être un frein à la formation de ce conseil civil ?
Bien sûr, l'opposition a demandé un cabinet exécutif qui est composé des gens, des figures nationales reconnus par leurs compétences techniques. Ça peut justement pour permettre aux forces politiques traditionnelles, les partis politiques, le temps de reprendre le souffle, de s'organiser et de se préparer pour une contestation démocratique réelle au bout d'une période de transition sur laquelle on a encore à se mettre d'accord. L'opposition demande 4 ans de transition parce que le dommage a été vraiment massif dans les systèmes, disons, de politique et les partis politiques du pays. Mais les conseils militaires insistent pour une période de transition de 2 ans. Ils sont en train de discuter et espérons qu'il y aura un accord sur un consensus pour la durée, mais surtout sur la répartition de pouvoir, comme je l'ai dit, entre le conseil militaire, le conseil souverain, le conjoint militaire-civil et le cabinet civil.
Alors, j'aimerais qu'on fasse un gros plan un peu sur les manifestants, hein, des médecins, des journalistes ont rejoint le sit-in. Parmi les groupes affiliés au mouvement, on a l'association des professionnels soudanais, l'Alliance pour la liberté et le changement. Souleymane Baldo, d'un point de vue sociopolitique, qui sont-ils ?
Ce sont les forces vives de la société soudanaise. Il y a des groupes de jeunes qui étaient très préparés, qui avaient mené une préparation de longue haleine pour ce jour-là, en essayant de s'associer à travers les médias sociaux, organiser leur groupe, avoir un leadership pas hiérarchique mais horizontal pour ne pas permettre à l'organe de sécurité et de la police politique de président Béchir de les reconnaître. Le mouvement des femmes avait joué un rôle et continue à jouer un rôle très important. Vous les voyez en grand nombre dans ces manifs et en réalité elles sont une majorité. Les mouvements associatifs, bref, c'est vraiment disons un mouvement civique de toute la société soudanaise, y compris les partis politiques. Mais ce n'est pas que les partis politiques, et les partis politiques n'ont pas un mot d'ordre qu'ils peuvent, disons, prétendre qu'ils peuvent mener ou bien diriger ce mouvement qui est beaucoup plus un mouvement de base, disons, de mouvement de la société civile. Ils sont en alliance. Et donc, on attend à ce que cette masse réelle que représentent toutes les forces de la société arrive à réaliser ses objectifs d'un transfert dans une période de transition, disons, démocratique pour un pouvoir civil qui gère les affaires de pays jusqu'aux élections après la transition.
Gérard Prenier, quelle est la place des islamistes dans ce mouvement ?
Justement, là, ce qui est quand même un changement énorme avec tous les bouleversements du monde arabo-musulman depuis 7-8 ans, les islamistes étaient eux-mêmes au pouvoir. Donc, il existe des islamistes d'opposition, mais enfin, leur position est un petit peu délicate. Ils peuvent difficilement dire « nous sommes l'avant-garde de la liberté et des forces populaires », alors qu'au contraire, ils étaient au pouvoir et qu'ils ont été liés à des manipulations économiques et financières, dont le moins qu'on puisse dire, et qu'elles ne correspondaient pas à un esprit d'égalité démocratique. Mais je serais peut-être un peu moins optimiste que mon ami Souleymane. Oui, ce sont les forces vives du Soudan, mais c'est quand même un mouvement qui a une base essentiellement classe moyenne. À la campagne, dans la brousse, ce gouvernement, dans les zones où il n'y avait pas de combat, bien sûr, parce que si on va dans le sud du Kordofan ou au Nil Bleu ou évidemment au Darfour, alors là c'est autre chose. Mais dans des zones où il n'y avait pas de combat, le régime est resté toléré passivement jusqu'à il y a encore bien peu de temps. Il y a 2 mois, Béchir avait fait toute une grande tournée pendant laquelle il a été plutôt bien accueilli. Alors, c'est un mouvement qui est quand même très urbain, très éduqué, on peut dire. Ce sont des gens à un niveau d'éducation supérieur à la moyenne. Et c'est un mouvement qui est vraiment centré sur les villes et les classes moyennes. Il y aura un problème, non pas parce que les gens regrettent Béchir, certainement pas, mais de passivité, disons, des classes populaires et des gens qui sont d'ailleurs, eux, les premières victimes du régime. mais qui l'ont toléré un peu passivement.
Alors les relations entre l'armée et les manifestants se sont tendues. Gérard Prunier, les forces de sécurité pourraient-elles réprimer les manifestants ?
Bien sûr, elles le pourraient, mais le risque politique qu'elles prendraient, le danger, c'est évidemment qu'elles y soient encouragées par des puissances extérieures. Et là, on pense tout de suite à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui pourraient pousser cette armée, qui évidemment a des moyens militaires que n'ont pas les manifestants. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre civile, mais nous pourrions y arriver au cas où l'armée prendrait l'initiative de réprimer les manifestations par la force. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que c'est l'enclenchement d'un système de type syrien.
Mais alors, quels sont les intérêts de ces pays vis-à-vis du Soudan ?
Oh, très simple. D'abord, il y a la grande querelle, le Fitna al-Kabira, entre d'un côté le Qatar, la Turquie et l'Iran, et puis de l'autre côté l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et puis dans le monde musulman, tout le monde a plus ou moins pris ses marques par rapport à cette division fondamentale. C'est une sorte de guerre froide à l'intérieur du monde arabo-musulman. Il n'y a pas d'intérêt économique particulièrement net, hein, mais il y a des intérêts de prestige, d'influence diplomatique et de captation, des forces politiques dans une période de grande transformation qui dure depuis 2011.
Souleymane Bado, qu'en dites-vous ? L'armée va-t-elle céder face aux manifestants ?
L'armée a pris l'engagement, disons, public, devant l'opinion publique au Soudan, de ne pas utiliser la force pour disperser les manifestants. Il y a un siège des quartiers généraux de l'armée pour mettre pression, sur l'armée pour qu'elle prenne un rôle positif dans la sécurisation d'un transfert de pouvoir pour les civils et la sécurisation de la transition pour la démocratie. C'est ça la demande de la population. Et d'ailleurs, l'armée a pris le pouvoir et a déposé Omar al-Béchir parce que Béchir insistait pour l'utilisation de force contre les manifestants et eux, ils ont jugé qu'il n'y a pas de garantie de succès et qu'il y aura un massacre entre leurs mains et que personne dans les organes de sécurité ne voulait pas en être responsable. Donc c'est ça la raison. Alors, je suis d'accord avec Gérard dans la mesure où les forces régionales s'accommoderaient bien d'un régime militaire au Soudan à la Sisi en Égypte, c'est-à-dire qui aura une tâche spécifique d'appuyer l'effort militaire de l'alliance menée par l'Arabie Saoudite dans la guerre du Yémen, d'un côté, et de l'autre côté, c'est de juguler et de mettre sous contrôle toutes les aspirations des mouvements de frères musulmans de Soudan de se faire renaître et reprendre en quelque
sorte. Monsieur Bado, je suis désolé, je vais devoir vous couper parce qu'on doit marquer une courte pause. Washington Forum revient tout de suite. Avec vous, Morgane Guiriec, gros plan sur le Soudan. Avec nous dans ce programme, de New York, Souleymane Bado, conseiller sur les questions politiques à Inov Project. Et à Paris, Gérard Prunier, consultant indépendant. Voyons tout d'abord ce que pensent nos Facebookers de la situation au Soudan. Nanan Brian Kouadio, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Une révolution transformée en confiscation de pouvoir par l'armée. Il faut que les militaires assoiffés de pouvoir écoutent le peuple. Jonathan Tsongo de la RDC. La communauté internationale doit se pencher sur la situation au Soudan le plus tôt possible pour empêcher les militaires de s'accaparer le pouvoir. Et puis Haruna Baldé qui est à Dakar au Sénégal. Et si l'armée refuse de rendre le pouvoir au-delà de l'ultimatum donné par l'Union africaine, quelles seront les sanctions? Alors j'espère qu'on aura le temps de revenir sur cette dernière question. Mais tout d'abord, à l'origine de ce mouvement de contestation, hein, le triplement du prix du pain, Souleymane Baldo, un changement de régime suffira-t-il à améliorer le sort des Soudanais?
Bien sûr, on a souvent présenté ce soulèvement populaire comme des manifestations de faim ou bien de pain. Or, ce n'est pas du tout le cas. Les Soudanais sont en train de soulever contre 30 ans de répression totale, de corruption totale et de théorie totale dans les guerres et dans les zones de conflit internes. Ils sont vraiment au bout de souffle et ils veulent vraiment déposer un système entier. La corruption des mouvements des frères musulmans au pouvoir au Soudan, c'est ce qui a mené à la crise économique. Mais le pays n'est pas pauvre. Le Soudan est un pays riche de ressources naturelles, de potentiel économique énorme, qui peut être très attirant pour les investisseurs étrangers. Et dès qu'il y a un moment de gestion responsable et transparente des biens économiques du pays, et la récupération de tout l'argent qui a été, disons, enlevé et dérobé par les corrompus du régime du président Bachir, l'économie va reprendre très rapidement. Bien sûr, il y aura besoin initialement d'un soutien, dans un paquet, disons, de secours pour permettre ce relance de l'économie. Mais la condition première et essentielle, c'est la démocratisation pour qu'il y ait un certain transparence et, disons, du sérieux dans la gestion de l'économie.
Gérard Prunier, alors on a déjà parlé de quelques pays, mais quand même, quels sont les possibles impacts de la destitution d'Omar El-Béchir sur les pays de la région?
Le premier pays qui évidemment doit se sentir concerné, c'est l'Égypte. Parce qu'on a là justement l'exemple même d'une révolution qui a mal tourné et qui a abouti à la reconstitution d'une dictature pire que celle qui avait été renversée. Donc c'est le contre-exemple total. Et il est bien clair d'ailleurs que le maréchal Sissi a tout de suite annoncé que lui, son soutien était pour le conseil militaire. Il y a d'autres choses plus complexes et il y a notamment la situation libyenne, c'est-à-dire quand on va à l'ouest du Darfour, si on se dirige vers l'Afrique centrale nord, c'est une situation extrêmement complexe parce que c'est un des canaux par lequel les migrants qui se dirigent vers l'Europe passent. Et il y avait eu des accords autrefois qui avaient été passés entre les Italiens et le colonel Gaddafi. Tout ça, évidemment, a explosé avec la situation de la Libye. Donc, il y avait eu une sorte, et d'ailleurs c'est bien le sens aussi d'un monsieur comme monsieur Hemeti, qui est le vice-président du conseil militaire, et qui lui-même, par le biais de la structure de milice qu'il contrôle, rendait service, entre guillemets, bien que le service n'était certainement pas apprécié de ses victimes, aux puissances européennes en empêchant trop de migrants de se diriger vers les côtes méditerranéennes de la Libye. Donc il y a une série de... Alors, un pays qui, à l'heure actuelle, est à peu près indemne de ce genre de problème, c'est l'Éthiopie. Et l'Éthiopie pourrait être un pays qui aurait un rôle positif, étant donné l'énorme travail de démocratisation qu'a fait son actuel Premier ministre, ça pourrait avoir effectivement un effet positif dans ce dialogue extraordinairement tendu à l'heure actuelle entre les civils et les militaires.
Alors, Omar El-Béchir, qui est désormais en prison près de Khartoum, est aussi sous le coup de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, notamment pour génocide au Darfour. Gérard Prunier, quel pourrait être son sort?
Justement, ça c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Parce qu'il y a une sorte d'attitude de la communauté internationale de dire nous sommes les juges de ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui passe très mal en Afrique. Très très mal. C'est pas du tout pour dire que le maréchal Béchir est un homme charmant et qui n'a pas justifié d'une série de crimes dont on découvrira, pour les gens qui n'ont pas suivi la situation au jour le jour, dont on découvrira l'étendue le jour où il y aura un procès. Mais est-ce qu'il doit se tenir auprès de la communauté internationale? Il y a une sorte de malaise, même de gens qui n'ont aucune sympathie pour le maréchal Béchir, à le voir envoyé en Europe. C'est littéralement une sorte d'infantilisation de la population locale, en disant vous avez eu un tyran, et ben c'est à nous de le juger, pas à vous. C'est un peu délicat. Donc, quel sera son sort? Ça sera certainement l'objet d'une négociation.
L'Union africaine menace de suspendre le Soudan si l'armée ne quitte pas le pouvoir au profit d'une autorité politique civile d'ici 15 jours. L'ONU réclame une transition respectant les aspirations démocratiques des Soudanais. L'Union africaine critique la prise de pouvoir par l'armée. Gérard Prunier, que pensez-vous de la position de la communauté internationale sur le dossier soudanais?
Ben pour le moment, le silence est écrasant. Je suis quand même content de voir que Mme Mogherini a pris l'initiative de dire « Nous, Union européenne, nous ne reconnaissons pas le Conseil militaire ». Bon, là, au moins, il y avait quelque chose de clair. Mais, par exemple, de la part des États-Unis, il y a des sortes de prises de parole très très générales en disant « Bon, c'est peut-être pas bien de faire ça, mais enfin, il n'y a pas quelque chose de net et de cassant ». Et d'autant plus que les États-Unis ont une capacité d'intervention considérable à Riyad, au Caire et à Abu Dhabi, c'est-à-dire sur les forces du monde arabe qui seraient elles-mêmes à même de menacer dans la situation actuelle. Les Américains pourraient avoir une forte intervention, même discrète, en disant « Bon, il faut se rendre compte qu'on ne va pas mettre fin à 30 ans de dictature en rajoutant une couche d'autorité militaire, surtout quand on voit qui sont les hommes ». Ce ne sont pas des soldats, disons, qu'on peut qualifier de démocrates. Ce sont des soldats qui, pour beaucoup d'entre eux, ont les mains couvertes de sang.
Alors, parmi les mesures prises par le Conseil militaire figurait un cessez-le-feu à travers ce pays, en proie à diverses rébellions qu'on a mentionnées. Souleymane Baldo, pourquoi maintenant? Très rapidement.
C'est un renouvellement de, disons, de déclaration unilatérale de cessation d'hostilité qui se jouait depuis bientôt 2 ans entre le gouvernement de Khartoum, déjà sous le régime du président al-Béchir, et par les mouvements armés qui font la guerre au gouvernement de Khartoum à partir de Darfour, Sud Kordofan et Blue Nile. C'est un phénomène qui continue, ça a donné un petit peu de repli aux populations civile de la guerre, mais la paix reste encore à réaliser dans les conflits internes du Soudan.
Écoutez, ce seront donc les mots de la fin. Souleymane Baldo, Gérard Prunier, merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à l'équipe qui a travaillé sur cette édition. Au revoir.
Merci bien. We'll be right back.